Alors voilà, donc aujourd'hui, dans cet élan du week-end, je continue, en tout cas je voulais finir l'année avec parce qu'il n'y a plus que deux rencontres, l'abîme d'humilité. On avait dit hein, on avait commencé à avoir plusieurs abîmes, donc c'est un enseignement que Sainte Marguerite Marie donne à ses novices. Et après l'abîme de douceur, les deux plus chères vertus du Sacré-Cœur, ça valait de soi de voir l'humilité. Alors voilà ce qu'elle dit à ses novices. Si vous vous trouvez dans un abîme d'orgueil et de vaine estime de vous-même, abîmez-le, donc cet orgueil, dans celui de l'humilité du Sacré-Cœur, où il faut perdre tout ce qui se soulève en vous pour vous revêtir de son anéantissement sacré par l'amour de votre abjection. Donc l'abjection, c'est ce par quoi on a été humilié. Notre saint fondateur, au passage, dit que c'est la pointe, hein, c'est le dernier degré d'humilité, d'aimer ce pourquoi avec ce quoi on a été humilié. Souvent, quand on est humilié, on dit, bon, ouh, voilà, ça a du mal à passer, bon, ça y est, c'est passé, c'est bon, voilà. Mais il va plus loin, ça suffit pas, hein, pour avoir le dernier degré d'humilité, c'est d'aimer ce par quoi on a été humilié. Donc voilà, c'est toute une. Là aussi, c'est tout un chemin de purification. Mais donc, pour nous plonger dans cet abîme d'humilité, dans son cœur doux et humble, il faut d'abord, il m'a semblé, en tout cas dans ma prière, en préparant cette petite formation, qu'il était d'abord, à mon avis, bon de savoir c'est quoi l'orgueil, à quoi consiste cet orgueil, hein. On sait tous. Enfin, on a tous, malheureusement, cet orgueil qui nous habite, mais malheureusement, ou grâce, parce que comme ça, le Seigneur est obligé de venir à notre secours, mais sinon, on ferait tout. Mais voilà, est-ce qu'on a bien conscience de ce qu'il est, le capitaine des capitaux, hein, c'est le premier des péchés capitaux, cet orgueil. Et du coup, pour répondre à cette question, en quoi consiste cet orgueil, il est mû à mon esprit qu'il ce serait en somme bien de remonter le temps et de nous retrouver justement avant la chute de Lucifer ou ce qui va le faire tomber. Parce que le péché de Lucifer, le péché de nos premiers parents, hein, Adam et Ève, est un péché d'orgueil. Et c'est vrai vous savez que dans la communauté, je suis devenue maîtresse des novices. Et du coup, dans le cadre de la formation de nos sœurs, de nos jeunes sœurs, on travaille la Genèse, le premier livre, et du coup, c'est les deux, comment dirais-je, récits de la création, et on est en plein dans justement Lucifer. Alors, voilà, il m'a semblé bon de creuser la question, parce que quand vous allez découvrir avec moi le texte que je vous propose pour le comprendre, qui est peut-être un petit peu complexe, mais je prends le temps de la lecture. Ça m'a, c'est vrai, enthousiasmé, pas le péché de Lucifer, mais ce qui m'a enthousiasmé, c'est toute la finesse, comment il est tombé, alors que c'était un des plus, enfin, le plus beau et le plus grand des anges. Et vous savez bien que la connaissance angélique, hein, c'est une pensée, c'est inné chez eux, hein, ils voient. Ils pensent, ils réagissent aussitôt. Nous, on a le temps de réflexion et de poser un livre ardu, pas chez eux. Hein. Et c'est vrai que c'est. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous savez bien que toujours dans les formations, j'ai toujours une idée derrière la tête, c'est votre vie antérieure, la mienne et la vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rempart à ce monde qui va droit dans le mur, eh bien. C'est notre vie intérieure. On ne pourra pas l'aider sans notre vie antérieure. Et beaucoup me disent, on ne nous en parle jamais. Hein. On parle beaucoup de l'amour, mais peu de l'amour de Dieu en somme. Hein. C'est plutôt soi-même. Et cette vie intérieure, il faut d'abord se comprendre dans son fonctionnement pour pouvoir arrêter un processus de péché d'orgueil. Hein. Si vous comprenez l'articulation qui se vit chez Lucifer et du coup chez nos premiers parents, quand vous serez mis dans une situation où vous sentez bien votre amour propre, où vous préférez vous suffire à vous-même, où vous vous adorez vous-même, parce qu'on en est quand même rendu là, eh bien, on peut prendre du recul et on dit, ah tiens, on est dans le, tombé dans le même panneau que Lucifer ou nos premiers parents, parce que les premiers parents, c'est le même péché que Lucifer. Et ça permet de ne pas coller à la situation, du prendre du recul et puis de poser un acte. Hein, dire, bah non, là je pars, je prends un chemin de traverse et c'est pas celui-là qui va m'emmener, en tout cas au cœur de Jésus, et je veux pas emmener l'humanité avec moi dans ce péché. Parce que quand Lucifer a péché, il emmène le monde dans le désordre, la preuve c'est que nos premiers parents pêchent, et nous, quand on fait un péché d'orgueil, c'est la même chose, on emmène l'humanité dans ce péché. Hein. Alors c'est pour ça que je vais m'arrêter sur mon tour, tout ce temps là, sur ce péché de Lucifer, mais voilà, c'est intéressant. Toujours d'ailleurs, en ayant derrière, en fond d'écran, on va dire, cette petite idée de nourrir ma vie spirituelle. Alors, le texte que je vais citer est de Monsieur Doja. Alors, c'est un monsieur qui est décédé. Mais c'est un laïc marié, ancien élève de l'école normale supérieure, docteur S. Lettres, lauréat de l'Académie française et de l'Académie des sciences, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, a consacré sa vie au centre d'études religieuses qu'il a fondé en 1925 pour donner aux laïcs une formation doctrinale et spirituelle comparable à celle que reçoivent les prêtres dans les séminaires. Et là, je cite, alors moi, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, je vous le conseille si vous arrivez à le retrouver. Eh bien, c'est La vie surnaturelle, et là, c'est un passage que je cite de la page 202 à 205. C'est quelqu'un qui est dans la pensée thomiste, donc il ne part pas dans tous les sens. Alors, la chute des anges. Les premières créatures spirituelles sont les anges. Les anges ont été créés en état de grâce, dans l'ordre surnaturel. Mais nous savons que l'ange n'a pas une intelligence qui raisonne et qui délibère. Il a une intelligence intuitive qui connaît tout du premier coup et sans progresser, et par conséquent, il prend ses décisions une fois pour toutes et ne peut plus changer. C'est pourquoi, alors que l'homme doit mériter la vie éternelle au cours d'une vie plus ou moins longue, il suffisait aux anges créés en état de grâce de recevoir joyeusement le don de Dieu et de se porter librement vers lui de tout leur être par un seul mouvement surnaturel de charité pour obtenir immédiatement la vision béatifique. Et tel fut le sort de tous les anges bienheureux. Mais parmi les anges, il y avait Lucifer, ange très parfait et d'une nature très élevée, qui avait pour mission de présider aux destinées de tout l'univers matériel qu'il connaissait tout entier en une seule idée, en une seule pensée, en un seul coup d'œil de sa lumineuse intelligence. C'est intéressant déjà de se dire que c'était lui déjà, Lucifer. Hein. Vous voyez, ce n'était pas le petit ange, parce que les anges ont une intelligence qui va avec leur mission. Alors, plus ils ont de mission, plus l'intelligence est adaptée à ce qui se dit tout seul. Mais ils ne sont pas interchangeables. Et Lucifer se complut dans la perfection de sa nature et le bonheur naturel qu'il y trouvait. Il s'admira et s'aima lui-même avec excès, au point qu'il ne voulut rien avoir qui ne fût son œuvre, c'est intéressant, hein, et dû à la seule perfection de sa nature. Mais la grâce est au-dessus de la nature de tout ange, si parfait soit-il, au-dessus de tout ce qui est créé. Elle est pur don de Dieu, qui fait entrer la créature dans la perfection incréée, donc celle de Dieu, et infinie de Dieu. Il fallait donc que les anges reçoivent la grâce avec humilité, comme une perfection dont leur nature est totalement incapable, et qui est donc purement gratuite de la libre miséricorde et de la généreuse tendresse de Dieu. Il fallait qu'ils reçoivent avec joie, amour, reconnaissance, ce don prodigieux qui les élevait à participer à la nature même de Dieu et les destinait à la vision béatifique. Et c'est ce que firent les anges fidèles, qu'un libre mouvement d'amour surnaturel de Dieu, auteur d'un tel don, éleva d'un coup tellement au-dessus de leur nature qu'ils méritèrent et reçurent la gloire de la vision. Mais Lucifer ne répondit au don de Dieu que par un mouvement d'orgueil. Il détesta ce don qu'il fallait recevoir avec humilité, comme une perfection qu'il ne pouvait atteindre par lui-même. Ce don qui lui faisait toucher l'imperfection de par lui-même, de sa nature de créature totalement dépendante de Dieu, dans sa nature de créature totalement dépendante de Dieu, dans tout son être et par là totalement impuissante à l'égard du surnaturel. Lucifer voulut par orgueil se passer de Dieu et d'un bonheur qu'il n'aurait dû qu'à Dieu, n'avoir que le bonheur appartenant en propre à sa nature. Et c'est intéressant, le bonheur qui vient de soi et le bonheur qui vient de Dieu. Lucifer a fait le choix du bonheur qui vient de lui. Donc, vous voyez, si vous pensez à certaines situations qui vous est propre, et même, je dirais aujourd'hui, ce qui se vit dans le monde avec cette connaissance artificielle, cette mémoire artificielle, ces robots qui pullulent. C'est impressionnant. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur la question. C'est vrai qu'ils nous rendent de bons services, tout ce qui est machines automatiques, des distributeurs de billets, etc. Mais à mon avis, il y a quand même une limite à ne pas franchir. Et là, c'est impressionnant. En tout cas, le calque avec le péché de Lucifer. Ne dépendre que de lui, être parfaitement autonome et indépendant comme Dieu, qui ne peut rien recevoir de personne et ne doit qu'à lui sa perfection et son bonheur. Dieu veut avoir besoin de nous, mais Dieu n'a pas besoin de nous. C'est une pure miséricorde qu'il nous fait d'avoir besoin de nous. Et une multitude d'autres anges suivirent Lucifer dans son orgueil, sa révolte, son refus du don de Dieu, auquel répondit le mouvement de fidélité des anges fidèles. Et désormais, la création était partagée entre deux attitudes, le non-serviable de Lucifer répondant à Dieu « Je ne servirai pas, je veux être indépendant comme Dieu » et le quis ut deus de Saint-Michel répondant « Qui donc peut être semblable à Dieu ?» Dans l'ordre naturel, les anges ne pouvaient pas commettre de péché. L'homme peut pécher contre sa nature. L'ange ne le peut parce qu'il a une vision toujours actuelle et parfaite de sa fin naturelle. Mais les anges révoltés ont péché en se détournant par orgueil de la fin surnaturelle à laquelle l'amour de Dieu les destinait. Péché horrible et immonde qui répond par la haine au merveilleux amour de Dieu. Voilà. Nous, on fait la même chose quand on se choisit. On fait le même péché de refus de ce don que Dieu veut nous faire. Que ce soit à travers une épreuve, que ce soit à travers une vie, une rencontre avec quelqu'un. Il y a obligatoirement quelque chose que Jésus veut nous faire vivre à travers une rencontre, à travers une cérémonie religieuse, la messe. Voilà. Quand on se choisit, quand on se préfère à la place d'eux, voilà dans quelle démarche on se met. Le refus de l'orgueil à la prodigieuse générosité de Dieu, voulant l'élever jusqu'à lui, sa créature, qui méprise le don que Dieu fait de lui-même pour préférer un bien créé, un bien qui, si parfait soit-il dans son ordre, n'est parce que créé que totalement imparfait et presque néant en comparaison de Dieu. Il faut bien avouer que nos petits bonheurs sont rien, mais rien, par rapport à la vision béatifique, c'est-à-dire à la vie éternelle. Moi, j'aime bien, hein, quand j'ai un choix à faire et qui est douloureux, à mettre en face la béatitude. En général, le choix, il est vite fait. Hein. Ça permet là aussi un recul. De ce péché, la suite immédiate fut la condamnation des anges révoltés, fixés pour toujours dans leur mouvement de haine de Dieu et dans la privation de la grâce et de la vision béatifique. L'ange ne peut pas changer. Les anges révoltés se sont établis dans l'orgueil une fois pour toutes. Ça, c'est quelque chose de terrible que notre intelligence créée ne peut pas comprendre. Hein. Ça, il ne faut pas imaginer, essayer de comprendre comment un ange a pu... Voilà, ça fait partie justement du plan de la rédemption. Il nous avait lu une telle faute, nous avait lu un tel rédempteur. Et la rédemption est plus grande pour Dieu. Ils avaient mis toute leur complaisance, et ça c'est intéressant, ils avaient mis toute leur complaisance dans les limites de leur nature. Mais privés de la grâce et de la gloire éternelle, ils n'ont pas récolté le bonheur naturel, et ça c'est ce qu'on croit quand on fait ces choix d'orgueil, qu'aurait comporté leur nature sans ce refus du don de Dieu. Leur orgueil a introduit en eux la contradiction et le désordre intérieur. C'est qu'une fois appelés à la vie surnaturelle, ils ne pouvaient plus avoir le seul bonheur de la nature. Ils n'avaient plus le choix qu'entre la réception humble et joyeuse du don surnaturel ou la damnation dans le désordre de l'orgueil. C'est que créée en état de grâce, leur nature se trouvait par là entièrement ordonnée et subordonnée à la fin surnaturelle que la divine tendresse leur destinait. Par elle-même, leur nature ne comportait rien de surnaturel. Mais créée par Dieu, dépendante de Dieu et pouvant recevoir de lui tout ce qui lui plairait de donner, la nature était ordonnée à recevoir avec humilité et joie tout don de Dieu, tout ce que Dieu voudrait lui donner généreusement, sans que cela lui soit dû. En refusant par orgueil le don de Dieu, les anges révoltés ont donc introduit le désordre en eux. Ils ont refusé un ordre que leur nature ne comportait pas. Mais qu'elle comportait d'accepter et de ne pas refuser, si Dieu le donnait généreusement. Ils ont refusé un ordre auquel leur nature a été de fait élevée au moment de leur création. Et en péchant contre l'ordre surnaturel, ils ont par contre-coup péché contre leur nature et offenser Dieu qui est l'auteur de cette nature. Se complaisant dans leur nature qu'ils savent créer par Dieu, ayant reçu de lui l'existence, totalement dépendante de lui, les anges révoltés se trouvent par là nécessairement aimés de tout l'élan de leur être, Dieu, auteur et créateur de leur nature. Et ils, et ça c'est subtil, haïssent ce même Dieu comme auteur et généreux donateur de la grâce et de l'ordre surnaturel. Là on mesure la souffrance, si on peut parler ainsi, de Dieu. Quand on pêche quand on fait un péché d'orgueil, hein, Dieu, ce qu'il nous propose est bon pour nous. Hein. Et nous, en refusant, en péchant par orgueil, on dit non à Dieu, alors ce qu'il nous donne est bon. C'est ce qu'a fait Lucifer. Hein. Contradiction intérieure et souffrance indicible, ils voient dans toute la lumière de leur prodigieuse intelligence le désordre et la contradiction qu'il y a en eux. Ils voient que glorifier le Seigneur est l'œuvre essentielle et primordiale de la créature dès qu'elle existe. Ouais, notre fin, hein, c'est pas mangeons bien, nous mourrons gras. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est la glorification de Dieu, notre vie. Hein. Et ils offensent le Seigneur par le mouvement déréglé et la malice de leur volonté d'orgueil. Ils ont voulu être totalement indépendants comme Dieu et ils se voient totalement indigents. Ils ont voulu le parfait bonheur que leur nature comportait et en refusant le bonheur plus haut que Dieu leur offrait, ils n'ont trouvé que désordre, contradiction, souffrance. Quand on pêche contre la volonté de Dieu, quand on se préfère à la volonté de Dieu, quand on fait un péché d'orgueil, est-ce qu'on est en général bien après? Vous voyez, quand on refuse une humiliation, on est souvent pris de scrupules après. Vous voyez, hein, ça va dans le même sens. Quand on s'est satisfait par soi-même, quand on n'a pas voulu dépendre soit de quelqu'un ou de quelque chose, et les voilà condamnés à une peine indicible et sans fin. Parce que je suis désolée, l'enfer existe. Hein, le catéchisme de l'Église catholique le dit. Et c'est la négation dans laquelle ils se sont mis de Dieu, c'est pour l'éternité. Il leur sera pas donné une autre chance. Par contre, à nous, et ça c'est la grande miséricorde, de ne pas avoir cette intelligence innée comme les anges, c'est que confession après confession et lumière après lumière, ben, on change, on a la possibilité de changer un choix. Et ça, c'est cadeau. Enfin, je veux dire, c'est là où on se dit, ben, même si on peut rêver d'être un ange, un pur esprit, on dit quand même, c'est quand même bien d'être une simple créature pécheresse, parce qu'on a cette grâce hein, et de pouvoir modifier nos choix. Il est juste et convenable qu'une peine infinie punisse celui qui offense Dieu, le bien infini. Ça, c'est une petite citation, je la reprends de Sainte Catherine de Sienne. Il est juste et convenable qu'une peine infinie punisse celui qui offense Dieu, le bien infini. C'est sûr que, comme il savait ce qu'il faisait, nous, bien souvent, et c'est pour ça que j'en viens au péché de Lucifer, nos actes, on n'a pas toujours conscience de notre responsabilité dans nos actes. Hein. On n'est pas toujours à même de voir que nos refus vont entraîner d'autres refus. On n'a pas toujours conscience que de dire non à Jésus va nous faire souffrir, va nous priver d'un plus grand bien. Ça, c'est une vie intérieure. C'est une vie voilà, toujours sous la lumière de l'Esprit-Saint, sous la lumière du regard de Jésus, que petit à petit, on comprend la subtilité de nos noms et comment on se prive de la grâce dans ces noms, hein, dans ces choix, dans cet amour déréglé de nous-mêmes. Hein. Ce culte du corps, par exemple, hein, comment ça peut nous couper de la grâce par moment. Hein. Les anges révoltés sont damnés parce qu'ils l'ont voulu. Et comme leur volonté ne peut changer, ils continuent à le vouloir. Et c'est ça leur condamnation. Ils demeurent dans leur refus de rien recevoir de Dieu et à la fois aiment et détestent leur souffrance. Et c'est là une nouvelle contradiction et une nouvelle souffrance. Ils ont aimé leur nature avec excès, au point de la vouloir seule sans le don de la grâce, et voici que leur nature seule ne donne que la souffrance. Ça laisse à réfléchir quand on a des choix à poser. Leur orgueil ne cessera pas de s'exaspérer lui-même et de vivre dans la rage par envie de Dieu. La folie de Lucifer ira jusqu'à demander à Jésus de l'adorer. Folie d'être comme Dieu, folie dont leur intelligence voit l'absurdité et dans laquelle ils persévèrent de toute la malice de leur volonté. Terrible, hein? Je me dis, on en a presque pitié, quoi, de Lucifer. À partir de la révolte de Lucifer, le péché existait dans le monde sous cette forme fondamentale, de l'orgueil et du naturalisme. Aimer la nature dans tout ce qu'elle a d'être et de bien reçu de Dieu est naturel et bon. Voilà. Il y a un juste milieu à avoir de s'aimer. Ne pas s'aimer, c'est atteindre le Créateur qui nous a fait bon. Et aujourd'hui, on tombe dans... Voilà, c'est encore un autre travers. Il y a une époque, on était dans le culte du corps. On prenait un soin démesuré de son corps. Puis aujourd'hui, on voit comment on se maltraite dans sa manière de s'habiller, dans la manière de se nourrir. Voilà. Et puis, alors, on en a conscience ou pas conscience, mais ces journées qui ne sont pas des journées, c'est-à-dire plus aucun horaire, voilà. On vit au gré de nos envies, on abîme notre corps, hein, de plus avoir des nuits, alors, je dis pas 8 heures, mais d'avoir des sommeils réparateurs. Non, j'apprends, alors ça fait voilà, que nos jeunes, de plus en plus jeunes, passent des nuits entières sur Internet. On ne peut pas dire qu'on s'aime, c'est pas possible. Hein. Vous pensez bien qu'une nuit sur Internet, une deuxième nuit, troisième nuit, c'est un désordre dans le corps humain. Hein. Bah, alors, évidemment, on passe beaucoup de temps sur Internet, on s'occupe. Alors je dis Internet parce que je sais qu'aujourd'hui la télé c'est plus, ça n'existe quasi plus, maintenant c'est Internet. Mais même en faisant autre chose, ça veut dire en lisant, en travaillant, parce qu'on ne va pas avoir le temps, parce que bah, je suis désolée, Dieu il est le maître du temps. Donc accepter qu'il y ait besoin jour, nuit, il y a besoin de travailler et il y a besoin de la nuit pour se reposer, pour se refaire des forces. Et croire que demain il me sera donné la grâce pour faire ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Bah, combien de fois dans ma journée, en tout cas moi j'essaie de plus en plus de vivre le moment présent, donc je ne suis pas à m'imaginer ce que je ne vais pas avoir fait à la fin de ma journée parce que ça ne fait pas partie de mon programme. Mais bien sûr qu'à la fin de ma journée, je vais me dire, il me reste tout ça, mais je peux passer ma nuit à finir ce que je n'ai pas fait dans la journée. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Je rentre dans le péché de Lucifer, si vous voulez. Donc du coup, le soir, je vais passer par mon bureau, je fais le constat, Jésus, j'ai encore trop prévu, et puis voilà, j'éteins mon bureau, puis je monte me coucher. Voilà, ça se dit tout seul. Puis demain, hop, on refait. Mais ce que je crois, c'est que Dieu l'a voulu. Et c'est bon pour mon humilité, c'est bon pour... Je vais avoir besoin de Jésus demain pour faire mon travail que je n'ai pas fait la veille. On a bien parlé, on a bien dit, hein, surtout le long du texte que je vous ai lu, ne pas dépendre de Dieu. Voilà. Je suis autonome moi-même. Mon bureau, tout est rangé, tous les dossiers sont... La satisfaction qui m'envahirait, c'est subtil. C'est ça l'orgueil. Hein. C'est ça. Alors je risque d'être en difficulté dans mes cours, peut-être, mais est-ce que tu crois que Jésus peut te mettre dans la tête ce que tu dois dire, par exemple ce que je dois vous dire? Voilà, c'est encore un sujet de dépendance ou d'indépendance. Alors la nature telle que Dieu l'a créée est bonne, donc il nous faut nous aimer telle que nous sommes, pas dire... Ça c'est un péché d'orgueil de dire je suis comme ça avec tel et tel défaut, c'est comme ça, on n'a qu'à m'accepter comme je suis et je resterai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors ça me fait bondir moi quand j'entends ça. Donc en général je dis je suis désolée, vous êtes là pour changer. Donc je suis désolée, puis en plus vous annulez la grâce, la toute puissance de la grâce qui n'envisage que de vous faire justement changer. Peut-être un petit iota, mais en tout cas un iota. Donc il ne faut pas annuler la puissance de la grâce. Non, par contre, il faut seconder, prendre conscience qu'on a des limites, qu'on a telle et telle chose à changer, et demander à Jésus de nous aider. Est-ce qu'on verra le changement de notre vie? Ça ne nous appartient pas. La démarche, c'est d'essayer de seconder la grâce. Hein. Après, le changement ne nous appartient pas. Mais cela comporte que la nature se sache limitée. Imparfaite. Les robots ne le sont pas. Voilà. Ça, il y a quelque chose de qui fait rêver là. Nous, on est limités, mais heureusement, c'est notre grâce. Et il nous faut plus de limites. Ayant tout reçu de Dieu, cela comporte aussi qu'elle sache par là que Dieu peut, s'il le veut, l'élever au-dessus d'elle-même et lui donner une perfection infiniment supérieure à tout ce qu'elle peut atteindre par elle-même. Si la nature s'aime et s'admire au point de se complaire totalement en elle, d'aimer sa limite et de s'aimer en tant que limitée et bornée, et non en tant qu'indéfiniment perfectionnable par Dieu, au point de vouloir se suffire à elle-même et trouver tout en elle pour être autonome et ne dépendre que d'elle, au point de vouloir se rendre semblable à Dieu en étant indépendante comme lui, et trouvant tout en elle comme il trouve tout en lui, alors c'est l'orgueil et le naturalisme. Voilà. Tout dépend comment on voit notre limite. Mais j'aime assez et garder ça. Nos limites, si on ne les voit pas en Dieu comme un moyen d'être divinisé, élevé par la grâce, elles nous bornent. On est des êtres bornés. Dieu nous propose autre chose en somme. Donc Lucifer s'est borné en choisissant de s'aimer lui-même, de se complaire dans sa beauté, parce qu'il était beau, c'est clair. Mais on est beau, hein. Si on est des êtres complexes, quelque part, enfin, quand on se regarde, on est des belles machines. Quand Dieu élève la nature à l'ordre surnaturel, la nature, parce qu'elle est capable d'être perfectionnée par Dieu, et élevée par lui au-dessus d'elle-même, est totalement saisie et absorbée par ce don surnaturel, et l'être ainsi transformé, est ordonné à cette perfection supérieure au point qu'il ne peut plus se dégager de cet ordre nouveau. S'il en sort par orgueil et naturalisme, parce que la nature refuse le don de Dieu qu'il fallait recevoir comme un don, c'est-à-dire en reconnaissant son imperfection et que ce don ne lui était pas dû et la complétait, alors c'est le désordre. Quand Dieu appelle la créature à l'ordre surnaturel, la fin naturelle n'existe plus comme fin dernière et absolue, mais elle est ordonnée à la perfection surnaturelle qui devient seule fin dernière, et ça c'est notre chance. De sorte qu'en rejetant la fin surnaturelle, on rejette aussi par contre-coup la fin naturelle et on rejette tout. Et en sortant de l'ordre surnaturel, on sort en même temps de la nature. C'est-à-dire qu'on sort de la nature ordonnée. Et on ne trouve plus que la nature désordonnée, tarée du désordre intérieur. Et ça veut dire aussi que quand on rejette aujourd'hui ce pour quoi on est fait, et on est fait pour Dieu, on est fait pour la vie en Dieu, on est fait pour la béatitude, c'est inscrit en nous. Quand on refuse aujourd'hui aux petits-enfants le baptême, c'est de ça qu'on les prive. Et c'est beaucoup plus ce qu'on entend du moment qu'il est heureux. Ben non, je suis désolée, le bonheur va pas, ça va s'arrêter, on a en moins ça en commun avec tout le monde. On n'est pas tous dans une famille catholique pratiquante. On n'a pas tous la grâce d'être à la garde d'honneur. Hein. Mais ceci dit, ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on mourra tous. Bon, en tout cas, heureusement, ça, pour moi en tout cas, parce que ça, je le croyais aussi, ça ne s'arrêtera pas là. Et c'est là l'urgence de la mission, de l'apostolat qu'on doit avoir près de nos frères et sœurs, c'est que est-ce qu'on vit dans cette espérance de la béatitude éternelle? Est-ce que nos comportements, nos achats, nos choix nous projettent dans cette béatitude? Ou alors, en fait, compte, on est contaminé par le monde qui compte bien nous enterrer sous terre et nous y tenir? Ah ben, je suis désolée, nos choix doivent être différents. pour ça que quand on s'alimente, on va dire, de façon démesurée à toutes les infos et tout ce qui se passe sur Internet, on sent que ça remplace cette béatitude. Et ça comble, si vous voulez, ce manque qui doit perdurer en nous. Ça doit rester cette part qui est celle qui revient à Dieu. On doit sentir un vide en soi. Si on ne sent pas ce vide, parce qu'on l'a comblé par une multitude d'infos, ou multitude d'objets quelconques, de possessions quelconques, ce vide, il est comblé, mais pas par Dieu. C'est la part qui lui revient, et quoi qu'on fasse, on doit le sentir. Ce vide sera comblé par Dieu quand on arrivera là-haut. Vous voyez, la société consommatrice dans laquelle on vit, les choix qu'on va faire d'achat, il nous faut sentir que, non, je ne vais pas envisager de remplir mon caddie, parce qu'il faut que je sente ce vide. Que je vais combler, alors elle est bien mignonne la petite sœur qui vous parle, en faisant une demi-heure d'oraison. C'est ça, c'est de cette manière-là qu'on va le remplir, le vide. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Comment il m'a appelé, Seigneur ? J'étais quelqu'un qui aimait les belles choses, alors je les aime encore, hein. Mais en somme, il m'a convertie, il a poussé le curseur, les belles choses sont pour lui. Mais avant, j'étais pour moi. Et du coup, je dépensais des sommes faramineuses en vêtements. J'étais capable de rentrer dans un magasin et m'acheter 3 chemisiers, rien que pour combler, j'en mettais qu'un à chaque fois, hein. Mais j'en achetais 3. Je comblais un vide, parce que j'avais conscience que j'avais un grand vide, et j'achetais, voilà, j'achetais. Et Dieu s'est servi de ce vide pour me montrer que j'allais beau acheter pour combler, ça ne comblerait jamais. Alors si j'étais satisfaite sur le moment, je l'ai trouvé beau, puis après, voilà. Je les mettais même pas, enfin pas tous en tout cas. Donc ça servait strictement à rien. Et oui, ça fait rire, hein, mais c'est vrai que c'est risible, quoi. Mais alors, ça a été ma grâce, parce que il est venu me chercher, voilà. Et tous les jours, je lui rends grâce, et je me dis, il m'a sauvée, c'est clair. Voilà, il m'a sauvée. Par ce vide, voilà. Il faut qu'on le sente. Et moi, je refusais de le sentir. Donc je le comblais. Ça peut être un élément important pour nous comporter en vrai garde d'honneur, hein, parce que la démarche derrière, c'est toujours je vous ai dit, hein, la vie intérieure, parce que là je vais pas me lancer après dans la chute des anges, c'est pas la chute des anges, pardon. Après on voit le péché originel. Et on vient de voir la chute des anges, justement, de Lucifer, le péché originel, où il y avait ce calque, et ça on verra la prochaine fois, on va voir ce calque avec Lucifer, et on pourra après rentrer dans quelle solution, en somme, on peut vivre. Donc il y a cet abîme d'humilité dans laquelle il va nous être demandé de plonger, mais quelle solution, en somme, Dieu nous donne par justement cette intelligence, cette volonté dont il nous a doté, comment je fais avec justement ces outils pour pouvoir poser des actes qui font que, comme je viens de vous raconter sur comment moi il est venu me chercher, ce vide, j'aurais pu continuer de pécher par orgueil, c'est-à-dire me suffire à moi-même, hein, en achetant, en comblant ce vide. Dans notre vie intérieure, il y a des gestes à poser. Et on découvrira la prochaine fois avec le péché originel et puis les moyens que Dieu nous a dotés. Hein, je vous dis, on est une très très belle machine, entre guillemets. C'était la mère Poney, qui est une visitandine, qui disait, nous sommes une belle machine à aimer. Hein, et du coup, voilà, on en parlera la prochaine fois. Et avant de vous laisser, je voudrais juste, vous évoquer. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié mes feuilles. il y a un rassemblement à Paray-le-Monial pour tous les responsables des centres de la gare d'honneur. Et comme j'aime trop ma clôture, on va dire, j'ai estimé que le hors-sol ne me convient pas, j'ai besoin d'être moi sur du sol qui correspond à ma vocation. Donc j'ai donc demandé à un garde d'honneur qui a accepté bien généreusement de me se rendre présent à ma place, parce qu'il est aussi possible de demander à être remplacé. On n'est pas obligé d'y être, parce qu'elles savent bien, nos sœurs de Paray-le-Monial, que ça, les responsables des centres sont des fois des visitants guides. Et donc c'est frère Bertrand, donc c'est monsieur Tapie qui a accepté de s'y rendre. Et c'est début janvier, c'est 15 et 16 janvier, je crois.
Un peu plus tôt.
C'est pas en janvier ?
Si,
ouais, c'est en janvier. C'est pas 14 ? Ah oui, j'ai désolée, j'ai dû les laisser. Vous savez, ça fait partie de la petite violette de la journée. Et en tout cas, c'est début janvier, donc ce rassemblement de tous les centres de la gare d'honneur. Et pour faire en somme un constat, on va dire, hein, sur l'ensemble de la gare d'honneur des centres, parce qu'ils ils sont dans l'optique de réécrire les statuts de la gare d'honneur qui avaient été faits par l'abbé Lucchesi il y a quelques années, qu'on a rencontré. Hein. Donc, de prendre dans votre prière cette démarche, déjà pour tout ce grand rassemblement, hein, qui autour du nouveau prêtre qui a été choisi pour remplacer donc l'abbé Lucchesi, donc c'est le père Barnet, qui est un prêtre de Bourg-en-Bresse, qui est maintenant nouvellement nommé pour être responsable de la gare d'honneur. Et donc dans ce cadre-là, il rassemble tout le monde, et donc ça va être un très beau rassemblement, hein. Mais voilà, il y a toujours une dimension de rester dans le charisme, parce que aujourd'hui on confond l'actualisation avec le fait de se niveler, de descendre tellement à l'esprit du monde pour qu'il soit audible. L'actualisation, que ce soit de la foi, c'est pas d'édulcorer le message. Hein. L'actualisation du message, c'est prendre des termes que les gens vont comprendre. Hein. Et alors des fois, il faut même en inventer. Et ça, l'Église, elle est capable de faire ça, d'inventer des termes, c'est ce qu'elle a fait, pour rendre audible le message qui remonte aux apôtres. Et là, je dirais, le message remonte pas aux apôtres, à Sœur Marie du Sacré-Cœur, mais Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernou, elle serait devant vous, elle dirait, mais c'est que moi j'ai reçu le message du Sacré-Cœur, donc il faut remonter au Sacré-Cœur, donc c'est monter au cœur du christianisme, parce que le Sacré-Cœur, c'est le cœur du christianisme, c'est pas moi qui le dis, hein. Et c'est l'Église qui dit ça. Et alors, pour qu'on ne se trompe pas dans l'objectif à atteindre, ben, il faut la prière, hein. Et la prière des membres de la gare d'honneur, c'est un enjeu ici, hein. Parce que c'est une richesse, la gare d'honneur, dans le sens où c'est une sanctification, pour moi, indolore. Tous les jours, vous avez un rendez-vous d'amour dont vous avez besoin, mais celui qui en a le plus besoin, c'est Jésus. Et lui, il va vous changer petit à petit, voilà. Donc, c'est dommage de se priver. Et du coup, le message, il doit être porté aussi à nos frères et sœurs. Donc cette semaine et jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas dans vos relations à parler de la gare d'honneur. Comment vous le vivez ? C'est pas juste le cadeau de Noël, le petit livret qu'on glisse dans le cadeau pour éventuellement parler de la gare d'honneur. Faut qu'on ait ça dans notre langage, hein, parce que c'est un art de vivre, c'est pas un ajout. On change, on voit la perception de notre journée différente. Et quand on voit aujourd'hui comment nos journées, pour certains, leurs journées tournent, de parler de la gare d'honneur, c'est leur donner le cadeau, c'est leur faire un cadeau. Donc voilà, je vous laisse Est-ce que j'ai sur cette belle parole, surtout qu'on va commencer le mois de novembre avec les âmes du purgatoire, voilà. Et donc la Toussaint et puis les défunts, voilà. Donc il nous faut prier et croire, hein, croire que voilà, on est fait pour la béatitude et qu'il nous faut vivre pour cette béatitude, pour lui. Voilà, en grande union. Merci.